Babylone. Nancy Ypsilantis.
Et Nicole Duparc. Bonjour et bienvenue à Babylone. Museau retroussé et pattes de velours, c'est au flair que nous remontons la piste des animaux jusqu'à l'Antiquité où poètes et philosophes se posent des questions qui sont toujours d'actualité, comme Plutarque qui, par exemple, au IIe siècle avant Jésus-Christ, se demande s'il est loisible de manger de la chair.
Si tu veux obstiner à soutenir que nature t'a fait pour manger telle viande, tu l'as donc toi-même. Je dis toi-même, sans user ni de couperet, ni de couteau, ni de cognée, mais comme les loups et les ours et les lions, à mesure qu'ils mangent, tuent la bête, aussi toi, tue-moi un bœuf à force de le mordre à belles dents, ou de la bouche un sanglier, déchire-moi un agneau ou un lièvre à belles griffes, et le mange encore tout vif, ainsi comme ces bêtes-là font. Mais si tu attends qu'elle soit morte pour en manger, et as honte de chasser à belles dents l'âme présente de la chair que tu manges, pourquoi donc manges-tu ce qui a âme ? Tu te moques de celui qui fait conscience de manger du mouton, mais nous ne pourrions avoir envie de rire. Voyons un qui coupera des portions du corps de son père ou de sa mère qui seront morts, et les enverra à quelques-uns de ses amis qui seront absents, et conviera les présents à en venir manger, et leur en servira à la table largement. S'il est loisible de manger chair, Plutarque.
Voilà, c'est un des 100 textes qui composent Cave et Canem, Hommes et Bêtes dans l'Antiquité de Jean-Louis Poirier, paru aux éditions Belles Lettres. Jean-Louis Poirier, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes en duplex de nos studios de Paris, vous avez enseigné la philosophie pendant 20 ans, vous êtes un helléniste passionné et l'on vous doit ce recueil de textes Cave et Canem qui témoigne des multiples rapports que les Grecs et les Romains entretenaient avec les animaux. Alors on l'a entendu, selon Plutarque, manger de la chair animale, c'est manger ce qui a une âme. Pour les Grecs et les Romains, c'était une évidence, les animaux ont une âme.
Dire que c'est une évidence, c'est peut-être aller un
ça
peu
ça se discute.
Vite. Ça peut évidemment se discuter, mais ce qui est sûr, et c'est peut-être cela qui fait la différence entre l'Antiquité et ce que nous ressentons de nos jours, dans l'Antiquité, on ressent très vivement une proximité avec l'animal. C'est un être vivant comme nous. Et c'est cela, je crois, qui est l'élément peut-être le plus important dans à la fois la réflexion et le traitement que dans l'Antiquité, on fait subir aux bêtes.
Mais si l'on pense à ce texte de Plutarque, on se dit qu'il n'était peut-être pas le seul à être philosophe végétarien.
Il n'était pas le seul, mais comment dirais-je, ce n'était quand même pas très répandu. Bon, il y a une tradition végétarienne dans l'Antiquité qui vient, on pourrait citer le nom de Pythagore par exemple. Simplement cette tradition, si on regarde les textes de Pythagore, je crois qu'il y en a quelques-uns dans le recueil, nous nous apercevons qu'il est extrêmement modéré. Bon, il est dans l'ensemble, il est principalement végétarien, mais il n'interdit pas aux athlètes de manger de temps en temps du bœuf pour prendre des forces. Il y a une attitude extrêmement modérée à l'égard de cette question dont on ne fait pas, si je puis m'exprimer ainsi, dont on ne fait pas une religion. Et vous observerez que les arguments que donne Plutarque dans le texte qui a été lu sont des arguments relativement peu intellectuels, sont des arguments qui invitent celui qui veut manger chair à tuer lui-même l'animal et à le tuer sans utiliser d'outils, en quelque sorte à faire les choses naturellement, pour montrer que naturellement, il y a là quelque chose de presque impossible.
Ou c'est une incitation à assumer ses actes.
Si vous voulez, mais
dans
cet exemple, à assumer des actes que nous ne pouvons pas accomplir. Personne ne peut tuer un bœuf de ses mains ou de ses dents, simplement. Il faut tout un matériel, hélas.
Nicole Duparc, Cave Canem nous ouvre toutes grandes les portes d'un monde où le rapport aux bêtes est au centre de presque toutes les activités humaines.
Oui, c'est vrai, l'animal est au cœur battant de la vie antique, il est au service de l'homme, bien sûr, comme animal exploité, travailleur, il sert à la ferme comme il sert à la guerre aussi. Et puis les Grecs et les Romains ont, bien sûr, leurs animaux familiers, aimaient les toutous, d'autres aussi, bien sûr, plus exotiques parfois. Et puis même les animaux monstrueux, difformes, des chimères, ont toute leur place dans des spectacles parfois extravagants ou dans les arènes où ils se font massacrer. Enfin, l'animal occupe une place tout à fait singulière dans la vie politique de la cité, puisque on interprète son comportement, on va suivre le vol des oiseaux, on va lire dans les entrailles avant de prendre toute décision qui pourrait affecter la cité. Donc, Cave Canem nous propose ces 100 textes pour déplier comme ça toutes ces dimensions, mais ce qui est tout à fait surprenant, c'est de voir à quel point ce rapport aux bêtes, il travaille vraiment les Romains, à quel point ils se posent mille et une questions. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il se pose des questions qu'on se pose toujours, puisque philosophes et poètes débattent jusqu'à plus soif de ce que nous différencie des bêtes. Ils se demandent si les animaux pensent, s'ils parlent, s'ils ont des droits, ou s'ils sont nos esclaves, si on peut les tuer pour les manger, on vient de l'entendre, ou s'il faut s'en abstenir comme le conseille Plutarque. Bref, c'est passionnant de découvrir tout cela aujourd'hui, vu d'ici, à une époque où notre rapport aux bêtes est très paradoxal, puisqu'on n'a jamais été aussi attentif à la souffrance animale, mais on n'a jamais autant produit également à la chaîne des animaux esclaves qui naissent et meurent dans les usines à viande. Mmh.
Jean-Louis Poirier, dans l'Antiquité, quels sont les animaux que l'on affectionne, que l'on a volontiers dans sa maison, et quels sont ceux dont on se méfie, que l'on craint ?
Alors, il y a d'une part, je commence par les animaux dont on se méfie ou que l'on craint. Ça dépend des, si c'est en Grèce ou à Rome. Ça dépend aussi si c'est dans la Grèce archaïque ou à une époque plus classique ou plus avancée. Parce que, au départ, si vous voulez, tous les animaux sont d'une certaine manière dangereux. Il faudrait évoquer, je n'ai pas mis trop de textes à ce sujet dans le volume parce que la place était limitée, mais il faudrait évoquer les travaux d'Hercule. Hercule, c'est le héros antique, mythologique évidemment, qui nous a débarrassé des bêtes monstrueuses ou dangereuses. Si vous prenez toute la liste des travaux, vous voyez qu'il a fait disparaître un certain nombre de monstres qui existent en quelque sorte réellement. Enfin bon, le lion de Némée, évidemment, est un animal mythologique, mais il y a des lions. De la même manière, pour les oiseaux du lac Stymphale, il y a des oiseaux, et nous le savons bien, qui peuvent provoquer des dégâts. Donc, le premier rapport, si vous voulez, à l'animal, est un rapport de méfiance et, le cas échéant, de destruction. En revanche, on a très vite compris, et je ne sais pas s'il faut dire cela d'une manière chronologique, ça se passe en même temps, la mythologie est quelque chose dont nous pouvons être encore contemporains, mais on comprend aussi très vite que nous, non seulement nous avons besoin des animaux, le livre s'étend largement sur ce point, mais comprendre aussi que nous vivons avec les animaux, qu'ils sont très proches de nous. Et ça, je crois que c'est un sentiment que l'Antiquité, aussi bien grecque que romaine, a très vivement ressenti et que nous ressentons peut-être moins. Ce qui caractérise dans nos pays, ce qui caractérise notre époque, c'est que l'animal est évidemment présent dans l'alimentation, dans toutes sortes de choses, mais ce n'est pas sur le devant de la scène. Ce qui est sur le devant de la scène, c'est l'animal domestique, et encore l'animal domestique au sens de l'animal familier, celui qui appartient en quelque sorte à la famille. Dans l'Antiquité, les animaux sont présents, pour ainsi dire, partout. C'est-à-dire le fait de manger l'animal que nous évoquions tout à l'heure est effectivement très présent dans la cité, puisque l'abattage des animaux n'est pas une affaire industrielle dans l'Antiquité. Ça relève du sacrifice. Ça relève de quelque chose qui est codifié et qui comporte un élément de rapport des hommes aux diverses divinités. Ce n'est pas simple, si vous voulez, de tuer un animal pour le manger. et c'est par conséquent tout à fait officiel. Et puis il y a toutes les autres utilisations de l'animal, la ferme. Faut pas oublier que la société antique, que ce soit à Rome ou en Grèce, mais plus encore à Rome, est une société agricole. Et par conséquent, où il y a beaucoup de bêtes, et où les bêtes ne sont pas seulement, comment dirais-je, quelque chose qui sert un produit d'élevage. Mmh. Les bêtes servent aussi aux travaux de la ferme. On a besoin des bêtes pour faire toutes sortes de choses et pas simplement pour produire des biens et les vendre. Et par conséquent, c'est encore un point qui est très visible dans l'Antiquité, alors que ce genre d'animal, de nos jours, a tendance à disparaître, ou en tout cas à ne pas apparaître sur le devant de la scène. Et par conséquent, l'animal familier ne joue pas du tout le même rôle dans la Grèce antique ou à Rome. Vous l'avez remarqué, alors, bon, les textes, nous n'en avons pas beaucoup. Les quelques textes qui existent sont dans le volume. Les animaux dans l'Antiquité sont, comme animaux familiers, sont plutôt utilisés pour être à la mode, se montrer. Vous voyez l'exemple des chiens d'Alcibiade, c'est pour parader auprès de la société et du luxe athénien. Alors, il y a des animaux qu'on aime vraiment, sans doute au même sens que de nos jours, mais c'est, je crois, extrêmement marginal.
Je vous propose d'entendre encore des textes, Jean-Louis Poirier, pour qu'on se mette comme ça dans la musique de ce moment. Nicole Duparc, on va entendre le philosophe romain Lucrèce.
Oui, qui est né, alors, vraisemblablement, je parle sous votre contrôle, Jean-Louis Poirier, vers 50 avant Jésus-Christ. On ignore presque tout de lui, à part son superbe
Absolument.
De la nature, hein, qu'on a appris à l'école, de Natura Rerum, pour les collégiens qui nous écouteraient. Et donc, dans ses chants poétiques, il s'en prend, disons, aux conventions, aux croyances, à la religion, aux superstitions. Et comme les animaux, bien sûr, font partie de la nature, eh bien, il tente de déchiffrer cette parole des animaux, leur langage. Voici ce que ça donne dans le texte.
Les troupeaux, privés de la parole, et même les espèces sauvages, poussent des cris différents, suivant que la crainte, la douleur, où la joie les pénètre, comme il est aisé de s'en convaincre par des exemples familiers. Ainsi, quand la colère fait gronder sourdement les chiens molosses et retroussant leurs larges et molles babines, met à nu leurs dents dures, les sons dont nous menace la rage qui fronce leurs mufles sont tout autres que les aboiements sonores dont ensuite ils emplissent l'espace. Et lorsque, d'une langue caressante, ils entreprennent de lécher leurs petits, ou qu'ils les agacent à coups de pattes, et que, menaçant de mordre et retenant leurs crocs, ils feignent délicatement de vouloir les dévorer, les jappements qu'ils mêlent à leurs caresses ne ressemblent guère aux hurlements qu'ils poussent, laissés seuls à la garde de la maison, ou aux plaintes qu'ils font entendre les chines basses et se dérobant au cou. Enfin, la gent ailée, les oiseaux d'hiver, les éperviers, les orfraies, les plongeons qui, dans les flots salés de la mer, vont chercher leur nourriture et leur vie, ont, en outre-temps, des cris tout autres que lorsqu'ils luttent pour leur subsistance et que leurs proies se défendent. D'autres encore font varier avec les aspects du temps et les accents de leur voix rauque, telles les corneilles vivaces et les bandes de corbeaux, suivant que, dit-on, elles réclament les eaux de la pluie ou qu'elles annoncent encore les vents et la tempête. De la nature, Lucrèce, il faut interpréter les cris des bêtes.
Jean-Louis Poirier, Lucrèce tente de déchiffrer le langage des animaux selon leurs émotions, selon les circonstances. Il est emblématique d'une nouvelle sensibilité ?
On peut le dire. Alors, il y a dans l'Antiquité, assurément, et de quelque point de vue qu'on se place, une grande proximité entre les hommes et les animaux. Mais avec Lucrèce apparaît quelque chose de nouveau et qui, je crois, de nos jours, doit nous interpeller davantage. Avec Lucrèce, qui est un philosophe, je ne vais pas développer cela trop amplement, mais c'est un philosophe épicurien, c'est-à-dire un philosophe qui ne croit pas que les dieux se préoccupent des affaires humaines et un philosophe pour lequel l'âme est toujours matérielle. Et par conséquent, si les animaux ont une âme, c'est une âme matérielle comme les hommes. Les hommes ont une âme, mais l'âme qui est comment dirais-je, le principe qui organise la vie et le mouvement des êtres vivants, est de nature matérielle. Et cela entraîne une proximité essentielle entre l'homme et l'animal. Et ce qui est admirable dans ce texte magnifique que vous avez lu, c'est de voir que cette proximité de l'homme et de l'animal se traduit dans des sentiments, se traduit, et elle est véritablement vécue sous une forme extrêmement ressentie et émouvante. Ces lignes sont magnifiques. Il y a peu de textes dans l'histoire de la philosophie ou dans la littérature qui montrent aussi bien la tendresse qui peut exister entre un homme et un animal. Et cela va jusqu'à cette question du langage. C'est une question, si vous voulez, on se la pose aussi de nos jours, mais on ne la prend peut-être pas assez au sérieux de nos jours. L'idée chez Lucrèce est que, par conséquent, la différence entre l'homme et l'animal, alors il y en a, l'homme est un animal évidemment différent des autres animaux, comme tout animal, mais il n'y a pas une différence, pour ainsi dire, métaphysique entre l'homme et l'animal. Et par conséquent, il doit exister non seulement une possibilité de se comprendre, qui passe par le sentiment, mais surtout une attention au langage. Certes, nous ne comprenons pas forcément, nous ne savons pas parler ce qui, selon Lucrèce, correspond aux diverses langues des animaux, mais nous avons suffisamment d'éléments pour voir que, en quelque sorte, il s'agit bien d'une langue, il s'agit bien d'intention de signifier de la part de ces animaux. Et c'est cela qui est très intéressant dans l'analyse que produit Lucrèce.
Il ne lui manquerait que la parole, disent certains. Je vous propose un autre texte. Nicole Duparc, nous allons parler de Platon. Voilà, alors oui. Platon, pour qui le chien est le gardien de la cité, hein, il a toutes les vertus, et les philosophes, avec Platon, s'intéressent de près à cet animal ami des bergers depuis toujours, et parmi eux, je vous propose d'entendre un médecin empiriste, Sextus Empiricus, 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Pour lui, le chien n'ignore rien de l'art de la dialectique, il est un dialecticien, question de flair ou de logique.
Nous voyons que le chien a du courage pour repousser les injures. Nous voyons qu'il a de la prudence, comme le témoigne Homère, qui rapporte qu'Ulysse, n'ayant été reconnu par aucun de ses domestiques, le fut seulement par son chien Argus, ce chien n'ayant point été trompé par le changement qui était arrivé dans la personne de son maître, et n'ayant point perdu l'idée qu'il avait de lui. En quoi il surpassa bien des hommes. Le chien, selon Chrysippe, qui paraît favoriser le moins les animaux privés de raison, n'ignore pas l'art célèbre de la dialectique. Car ce philosophe dit que, quand un chien est arrivé en quelque endroit où aboutissent trois chemins, alors il se sert du dernier des cinq arguments, que les stoïciens appellent indémontrables. Lorsque de ces trois chemins, il en a examiné deux, par où il juge que la bête n'a pas passé, alors sans rien examiner davantage, il se jette dans le troisième. Cet ancien philosophe prétend que cela vaut autant que si le chien raisonnait de cette manière. La bête a passé ou par ce chemin-ci, ou par celui-là, ou par cet autre. Or, elle n'a passé ni par ce chemin-ci, ni par celui-là. Elle a donc passé par cet autre. Nous avons fait voir que le chien recherche ce qui lui est utile, fuit ce qui l'incommode, possède l'art de se procurer quelques biens, sait connaître ses maux et y apporter les remèdes propres à les soulager, et ne manque pas de vertu. Toutes choses dans lesquelles consiste la perfection de la raison ou du discours intérieur. Il est donc évident qu'eu égard à ce discours intérieur, le chien peut passer avec justice pour un animal à qui il ne manque rien. Et c'est peut-être cette persuasion qui a fait que quelques philosophes se sont distingués en prenant leur nom de celui de cet animal. Sextus Empiricus, hypotypose pyrrhonienne.
Cats and dogs are not afraid. pretend it's just emotions we invent, like photographs we put on shelves. Cats and dogs are not our friends. Scratch their ears, they'll wave their tails. And if it rains again next weekend, it's all because of them.
Cats and Dogs, c'était Camille dans Babylone. Retour sur notre rapport aux bêtes, tel qu'il nous a été transmis par l'Antiquité gréco-romaine et ses philosophes qui, parfois, adoptaient le nom de leur chien. Jean-Louis Poirier, vous avez réuni une centaine de textes issus de l'Antiquité dans Qu'avec un M, Hommes et Bêtes dans l'Antiquité, c'est paru aux éditions Belles Lettres. L'Antiquité découvre donc le langage animal et l'intelligence animale.
Absolument. Et c'est une découverte extrêmement importante qui a été oubliée pendant beaucoup de siècles à l'époque classique chez nous. C'est une découverte qui est très attentive. C'est ça, je crois, qui est le plus intéressant, qui est très attentive au comportement des animaux. L'exemple du chien qui raisonne, alors je ne sais pas s'il raisonne, mais le comportement de l'animal est admirablement décrit et compris à travers cette polémique sur le fait de savoir si le chien fait cela au flair ou s'il raisonne.
L'animal, Jean-Louis Poirier, occupe aussi, on l'a dit, une place très 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 importante dans la vie politique, dans la vie de la cité, puisque ce qui détermine les décisions importantes, c'est l'examen de leur comportement, c'est l'examen de leurs entrailles, les aruspices, et puis ils sont aussi des victimes sacrificielles, on l'a dit. Donc comment qualifier ces échanges qui sont à la fois puissants, mais qui sont ambigus également, entre les hommes et les animaux dans la cité?
Il y a là quelque chose qui justement nous intéresse, parce que ça nous est relativement étranger. De nos jours, l'animal n'a pas ce genre de présence dans la cité. Alors que dans l'Antiquité, reprenons tout simplement l'exemple de la louve romaine, l'origine même de la cité, c'est-à-dire de Rome, cette cette cité si puissante dans le monde, son origine même est animale et précise, puisque c'est cette Louve qui a recueilli les fondateurs de Rome et les a nourris, et qui sera honorée dans Rome. Mais il y a aussi d'autres épisodes, celui des oies du Capitole, par exemple, qui, alors là, justement, ont été meilleurs que les chiens, qui, eux, dormaient, si je puis dire, à pattes fermées, pendant que les Gaulois attaquaient. Il y a là vraiment cette coopération de l'homme et de l'animal. Et dans le sacrifice, justement, il y a bien l'élément de rite, l'élément de religion, et qui fait que la mise à mort des animaux n'est jamais quelque chose d'anodin. Alors évidemment, il ne faut pas oublier non plus, et je pense que le livre s'étend sur ce point très amplement, il ne faut pas oublier non plus le fait que les Romains ont inventé les jeux du cirque, où on ne montrait pas seulement les animaux, mais il a existé une forme de massacre effrayante.
Autre animal, le corbeau, Nicole Duparc, il n'a pas forcément une très bonne image aujourd'hui, mais vraisemblablement, il n'en allait pas de même à Athènes.
Oui, et c'est Pline l'Ancien, surnommé à juste titre, dit-on, le plus illustre des apôtres de la science romaine, qui nous raconte cette histoire plutôt édifiante du corbeau du Forum.
Rendons aussi justice au mérite des corbeaux, attesté non seulement par le sentiment du peuple romain, mais encore par son indignation. Sous le principat de Tibère, un jeune corbeau, d'une couvée aînée sur le temple des Dioscures, vint s'abattre dans la boutique d'un cordonnier voisin. Sa provenance sacrée le recommandait au patron de la boutique. Habitué de bonne heure à parler, il s'envolait tous les matins sur la tribune et, tourné vers le forum, il saluait par leur nom Tibère, puis les Césars Germanicus et Drusus, enfin le peuple romain qui passait par là. Après quoi, il retournait à la boutique et durant plusieurs années, son assiduité fut un objet d'admiration. Le maître cordonnier d'une boutique toute proche le tua, soit par jalousie, soit dans un soudain accès de colère, comme il voulut le faire croire, parce que l'oiseau lui avait, de ses excréments, sali des chaussures. La multitude s'en émut, au point qu'elle commença par chasser l'homme du quartier, et qu'ensuite, elle le mit à mort. Un cortège innombrable assista aux funérailles de l'oiseau. Le lit funèbre fut porté sur les épaules de deux Éthiopiens, précédés d'un joueur de flûte et de couronnes de toute espèce, jusqu'au bûcher qui fut édifié à droite de la voie Appienne, à 2 milles de Rome, dans le terrain plat qui porte le nom de Rediculus. C'est ainsi que le peuple romain vit dans le talon d'un oiseau un motif assez juste pour lui faire des funérailles. Pline l'Ancien, Histoire naturelle, le corbeau du Forum.
Des funérailles impériales, Jean-Louis Poirier, on touche ici à un autre monde.
Oui, assurément. Ça montre bien le rapport très ambigu, mais très fort, qui existe à cette époque entre l'homme et l'animal. D'ailleurs, le corbeau, dans l'Antiquité, c'est un animal dont on retient d'abord, paraît-il, qu'il parle. Enfin, il parle comme le perroquet. Enfin, il parle un langage humain. Et il est doué d'une très grande intelligence. Et donc, c'est un animal, effectivement, qui bénéficie d'une grande considération dans l'Antiquité. Comme à peu près tous les animaux, il y a des animaux fétiches un peu partout. Faudrait évoquer, nous avons évoqué le corbeau, mais on pourrait évoquer aussi le serpent, qui à la fois est extrêmement redouté des agriculteurs, et en même temps est presque un animal domestique, en tout cas un animal qui est respecté et qui deviendra aussi l'animal fétiche du dieu guérisseur. Il nous sauve de toutes les maladies.
Il peut nous faire revenir des morts.
Même, oui. Côté chez Ovid. Égyptien.
On a parlé de Romus Romulus, mais c'est vrai qu'aussi les animaux, on les considère parfois comme étant à l'origine de villes. Ils font partie de l'acte de naissance de Rome.
Absolument. Bon, c'est pas l'animal qui a été le plus honoré à Rome, mais il reste dans toutes les monnaies, dans l'emblème, dans toute l'histoire, l'animal emblématique de Rome, la louve. C'est un point sur lequel d'ailleurs les mythologues, les archéologues ont pu construire beaucoup d'analyses, où il y a beaucoup de recherches à faire encore sur ce point.
En tout cas, Jean-Louis Poirier, les animaux jouent un rôle essentiel dans la mythologie gréco-romaine. Ce sont des personnages à l'égal des dieux, quand ils ne sont pas eux-mêmes des dieux ?
Ah, absolument. Les dieux sont pratiquement tous accompagnés d'un symbole animal. On pourrait évoquer Minerve, enfin dont l'animal fétiche est la chouette. Tous les dieux ont évidemment un animal qui les accompagne. C'est une tradition qui restera même dans le monde chrétien. Beaucoup de saints ont un animal qui les accompagne. On pourrait évoquer l'aigle ou le chien, des choses comme ça. Et vraiment, l'animal, si vous voulez, il y a cette idée, si on peut résumer toute la leçon de l'Antiquité, cette idée que le monde et les sociétés humaines, sans les animaux, ce ne serait pas complet. Il manquerait quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que l'Antiquité ressent très vivement.
Les animaux sont également objets de spectacles. Il y a des textes qui relatent des shows comme ça, dignes d'Hollywood, avec des monstres marins, des animaux exotiques. Puis il y a ces arènes sanglantes aussi, où les animaux se font massacrer. Or, j'aimerais qu'on s'arrête sur un événement. Il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire en 55 avant Jésus-Christ. Oui. Les jeux offerts par Pompée furent l'occasion d'un dérapage, dites-vous, qui suscita une très forte réaction de la foule qui a pris le parti des bêtes. Alors, il y a un texte de Dion Cassius qui relate ces faits en disant « Nous sommes tous des éléphants, alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là »
Bah, écoutez, d'habitude, les animaux effectivement étaient montrés, très souvent massacrés, et le public du cirque, qui n'était pas, même à l'époque, le public le plus raffiné qui se conçoit, aimait beaucoup cela. Et précisément, là, c'est le contre-exemple que les philosophes ou les historiens ont repris. Ce jour-là, le massacre est allé un peu trop loin, et il s'est produit un phénomène de sympathie de la foule à l'égard des éléphants. Alors, il faut dire que l'éléphant est un animal avec lequel on a un rapport un peu particulier, parce que lui aussi, mais quel animal ne serait ainsi ? Lui aussi est un animal intelligent et un animal qui manifeste des sentiments, qui manifeste notamment sa détresse d'une façon poignante. Et là, dans l'amphithéâtre, les spectateurs ont pris le parti des bêtes, d'où une manifestation et des mouvements de violence importants. Mais ce qu'il faut surtout observer, vous avez cité le texte de Dion Cassius, il y a aussi une lettre de Cicéron qui raconte cela. Et ce qui est intéressant, c'est que Cicéron, vous voyez, c'était quelqu'un de distingué, et il explique qu'il était allé au cirque, plus ou moins pour accompagner quelqu'un, je ne sais plus exactement, mais il n'y va pas ordinairement, c'est pas le public ordinaire du cirque, et il est témoin de cet événement qu'il rapporte en ayant vraiment compris le côté extraordinaire de la chose, c'est-à-dire a été montré par les fêtes la réelle proximité, la sympathie au sens d'éprouver les mêmes sentiments de l'homme et des animaux, dans l'exemple justement de ce massacre d'éléphants qui s'est mal passé. Il y a d'autres exemples effrayants, mais je ne vais pas revenir sur les textes, ils sont dans le volume.
Jean-Louis Poirier, on va entendre maintenant une philosophe de nos jours, d'aujourd'hui, qui prend elle aussi le parti des bêtes. Il s'agit de Françoise Armengaud, qui publie « Apprendre à lire l'éternité dans l'œil des chats ».
Oui, c'est un beau titre. Elle a déjà publié « Réflexions sur la condition faite aux animaux » et l'année dernière « Requiem pour les bêtes meurtries ». Cette fois, donc, il s'agit d'un vagabondage personnel, d'un bestiaire poétique qui n'a rien d'alphabétique ni d'encyclopédique. Poète, philosophe et écrivain, il raconte une seule chose, simple et énigmatique, leur émerveillement devant les animaux.
Un lémurien de la grande île, ongles crispés sur une corde, suit tête en bas, les yeux dans les yeux, un marin de Noé qui sourit. Marie-Christine Brière, Cœur passager.
Rilke écrit « Il arrive qu'un animal muet lève les yeux, nous traversant de son regard calme ». Françoise Armengaud, tout commence là, c'est justement ce moment-là de regard partagé, et bien sûr qui reste mystérieux aussi.
Tout à fait, il y a le regard de l'humain sur l'animal et l'étonnement d'être regardé par les animaux, de se laisser regarder. Donc quelque chose qui donne une réciprocité, une confiance éventuellement, ou une méfiance quelquefois. C'est ce qui nous donne aussi un sentiment à la fois de proximité et d'altérité, parce que l'animal reste très différent, énigmatique. C'est cela qui fait quelque chose de très, d'une tension très vivante, enfin, dans cet échange des regards. Il l'exprime aussi, notamment, à propos de son poème célèbre sur la panthère, panthère enfermée dans une cage au jardin des plantes, derrière les barreaux, et dont le regard est tellement usé à force de voir les barreaux défiler par sa propre marche, qu'il ne voit plus rien, qu'il n'appréhende plus rien. C'est quelque chose de très tragique de l'enfermement des bêtes qu'il a cerné là. Dans le livre de Job, lorsque l'Éternel s'adresse à Job pour dire « Regarde le Léviathan, enfin, qui sont des animaux terribles, c'est pas très bien, c'est crocodile, rhinocéros, enfin bon, hippopotame, enfin peu importe, c'est un appel à la considération de plus grand que soi dans les animaux. Donc ils peuvent aussi terrifier, mais surmonter cette terreur par le biais d'une admiration peut conduire aussi à un émerveillement.
J'aurais assez de la nature quand j'aurais été admise dans le cercle fermé des familiers du bourdon. La simple renommée d'un trèfle dont une vache se souvient est plus douce que les royaumes émaillés de la notoriété. La suprématie d'un insecte est aussi vaste que la tienne. Emily Dickinson.
Du côté des femmes écrivaines, on pourrait bien sûr évoquer Colette, qui a très très bien parlé des animaux. Vous citez aussi beaucoup la poétesse Emily Dickinson, écrit à l'adresse de ses lecteurs « La suprématie de l'insecte est aussi vaste que la tienne ».
Et ça, c'est magnifique, parce que c'est une affirmation très, très concise, enfin de, pour employer un terme plus philosophique, de l'antispécisme, enfin de non-spécisme.
Aujourd'hui, ça sonne presque comme un plaidoyer politique, c'est-à-dire que cet émerveillement, il n'est pas sans conséquence, bien sûr, sur notre manière aussi de traiter ou de maltraiter les animaux.
Il y a une profonde méconnaissance et oubli des animaux qui est tout à fait terrifiant. Lorsque vous entendez parler de l'environnement, c'est très rare qu'on parle des animaux en tant qu'ils habitent, comme nous, ce milieu. On dirait qu'il y a d'un côté l'humanité et puis de l'autre une biodiversité quasiment abstraite qui ne met pas en relief le côté individu, sujet des animaux qui ont à vivre dans cet environnement. J'étais tout à fait choquée d'entendre un moment où on disait que voilà, il fallait manger moins de viande et que c'était bon pour la planète. Ne mangez pas ce beefsteak, c'est bon pour la planète. Et il n'était pas dit c'est bon pour le bœuf, le mouton, la vache, etc., qui ne seront pas tués. L'oubli écologique des animaux, enfin, l'oubli chez les écologistes, pas tous heureusement, des animaux qui sont des habitants comme nous de l'environnement.
Au fond de ses yeux adorables, je vois toujours l'heure distinctement, toujours la même, une heure vaste, solennelle, grande comme l'espace. Sans division de minutes ni de secondes. Une heure immobile qui n'est pas marquée sur ses horloges et cependant légère comme un soupir, rapide comme un coup d'œil. Et si quelqu'un venait lui demander ce qu'il cherche dans les yeux de cet être, il répondrait sans hésiter « Oui, je vois l'heure. Il est l'éternité. » L'horloge, Charles Baudelaire.
Un mot peut-être, Françoise Armingot, sur ce titre, très beau, « Apprendre à lire l'éternité dans l'œil des chats ». Alors, ça vient d'où? Parce que vous citez un petit poème de Baudelaire intitulé « L'horloge ». Où
oui,
il
exactement.
Parle des Chinois, justement, qui voient l'heure dans l'œil des chats.
Là, c'est une très jolie histoire. C'est un récit qui met en scène des voyageurs, enfin, ce sont des missionnaires qui sont en Chine. Ils arrivent dans un village, ils pensent qu'il doit être bientôt midi, et ils avisent un jeune garçon, lui demande est-ce qu'il est bientôt midi. Et le jeune homme va dans une ferme qui était proche et il revient en portant un fort gros chat dans les bras. Et il montre la prunelle du chat qui va rétrécissant au fur et à mesure qu'on va vers midi. Et à midi, il dit, elle est comme un cheveu, elle est fine. Et voilà, l'heure de midi est indiqué par l'affinement de la prunelle de l'œil du chat. Et Baudelaire pense alors aux yeux de son amante, la belle Féline, et dit dans ses yeux, je vois l'heure, il est l'éternité.
Merci à Françoise Armengaud qui publie aux éditions Les Belles Lettres « Apprendre à lire dans l'œil des chats » ou de l'émerveillement des bêtes. Jean-Louis Poirier, les auteurs de l'Antiquité parlent-ils aussi de cette rencontre sensible, de cet échange de regards?
Naturellement. Vous avez tout à l'heure évoqué un texte de Lucrèce, mais on pourrait évoquer cette page qui est sans doute la plus belle de toute la poésie de l'humanité, la page où Homère raconte la mort d'Argos, le chien d'Ulysse, ce chien qui meurt de joie, parce qu'il a été le seul à reconnaître Ulysse à son retour. Et il y a là une description par le poète qui est absolument sublime, puisqu'on évoque toute la vie de ce chien, comment il chassait, comment il se laissait caresser. Enfin, il y a une tendresse évidente entre les hommes et les animaux, et pas seulement d'ailleurs les animaux, comment dirais-je, classiquement domestiques, comme le chien ou le chat. Le chat, à vrai dire, était pratiquement ignoré dans l'Antiquité. C'est un animal qui était égyptien, et en Grèce ou à Rome, la fonction du chat, c'est-à-dire chasser un certain nombre de rongeurs, c'était la belette, il faut le savoir.
Jean-Louis Poirier, on s'émerveille aussi d'animaux pas du tout domestiques. Hein. Par exemple, Pline l'Ancien écrit ou décrit son émerveillement face à l'art de l'araignée, talent d'architecte. Il dit que c'est un spectacle digne de l'amphithéâtre pour qui a la chance de le voir. C'est ce qu'il écrit dans ses histoires naturelles. Donc on est émerveillé aussi face à aux techniques animales.
Bien sûr, et ça c'est un argument très fort. Il y a une analyse du comportement de l'animal qui est véritablement très très moderne. Enfin, il y a une observation d'une extrême finesse, et en même temps, cette analyse conduit à poser des questions. C'est celle de l'intelligence animale, parce que la question de l'instinct ne règle pas tout. Et cette question de l'intelligence animale, justement, est très vive dans l'Antiquité. Nous en avons déjà parlé, parce que précisément, le comportement, la perfection technique de certaines réalisations animales tient lieu de langage. Ça montre qu'ils sont raisonnables. Et pour les antiques, d'ailleurs comme pour la plupart des philosophes, la possibilité d'accéder au langage est liée à la raison.
Alors, accès au langage, intelligence animale, et puis capacité qu'on va reconnaître aux animaux, c'est leur capacité d'automédication. On en a juste dit un tout petit mot. Donc les animaux savent se soigner. On admet qu'ils sont dépositaires comme ça d'un certain nombre de secrets.
Oui, alors là, ça c'est plus ou moins, j'allais dire, mythologique. En fait, ce sont des traditions d'éleveurs ou de cultivateurs, des traditions paysannes. Je pense qu'il existe dans beaucoup de pays des représentations comparables qui reposent d'ailleurs sur des observations souvent justes. C'est vrai que les animaux savent dans un certain nombre de cas ce qui est bon ou mauvais pour eux. Cela dit, dans l'Antiquité, comment le dire, on enjolive un petit peu les choses en leur prêtant un savoir dont je ne suis pas certain qu'il l'est.
Est-ce qu'ils apparaissent également dans les rêves des Grecs et
Bien
Romains
sûr.
Et est-ce qu'on interprète leur rôle?
Bien sûr, Artémidor nous a laissé une clé des songes où les animaux occupent une place considérable, puisque les rêves d'animaux donnent lieu à interprétation. Alors évidemment, c'est pas du tout la même chose qu'avec Freud, puisque chez Freud, il n'y a jamais une correspondance précise entre la présence ou ce que fait tel ou tel animal dans un rêve et un sens déterminé. Mais dans l'Antiquité, si vous rêvez de fourmis ou d'oiseaux ou de telle chose, de tel animal, on vous dira à quoi ça correspond.
Jean-Louis Poirier,
l'animal est vraiment présent dans le rêve.
Qui est « on » vous dira, justement, qui est habilité?
Alors, l'interprète des songes. L'interprète des songes, et il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques, disons, philosophes qui se livrent à l'interprétation des songes, et ça ne court pas les rues, ça faut le reconnaître. Même si c'est une tradition bien ancrée dans toute l'Antiquité, hein, c'est toujours demandé ce que voulaient dire les rêves. Mais les gens qui font ça plus ou moins techniquement, en tout cas en appliquant une certaine codification, il y en a très peu.
Et puis les animaux sont aussi très présents dans la pharmacopée antique. Hein. Je crois que c'est Porphyre qui écrit au IIIe siècle « Quelle gêne pour la thérapeutique si les malades veulent s'abstenir des animaux. Ne voit-on pas que ceux dont la vue faiblit conservent la vision en absorbant de la viande de vipère ?» Voilà. Je ne sais pas si c'est un bon conseil, mais donc ils sont très très présents
absolument.
D'emblée.
Absolument. D'ailleurs, bon, c'est un fait, je crois que bon, qui peut être vérifié scientifiquement dans certains cas. Bon, c'est vrai que dans les animaux, nous trouvons un certain nombre de substances qui peuvent avoir des effets thérapeutiques. Pas toujours, hein, mais ça arrive. Alors, il y a de la mythologie qui s'ajoute à cela dans l'Antiquité, puisque on croit. Les formes d'automédication animale sont évidemment discutables. L'exemple de la chèvre qui soigne elle-même sa cataracte. Bon, je demande à voir. C'est le cas de le dire. Mais d'autre part, il y a beaucoup de substances. La corne de cerf est restée dans la pharmacopée jusqu'au Moyen-Âge. Et même encore de nos jours, il y a dans les vieilles pharmacies, il y a des bocaux qui ont l'étiquette corne de cerf. Alors, on lui prête toutes sortes de vertus, comme à beaucoup de médicaments.
Peut-être qu'on peut redescendre un petit peu un instant sur le plancher des vaches, Jean-Louis Poirier, puisque vous le dites que dans l'Antiquité, la richesse, elle s'évalue en troupeaux. Pourtant, il y a une différence assez notable entre les Grecs et les Romains, puisque, en tout cas c'est ce que vous suggérez, mais que les Romains vont être les premiers à exploiter vraiment les ressources animales sous une forme presque industrielle.
Ah, absolument. Bon, bien sûr, en Grèce, il y a de l'élevage, et on peut même dire que l'élevage est majoritaire dans la mesure où l'agriculture n'est pas encore extrêmement développée. En revanche, à Rome, l'élevage est devenu systématique. Je pense qu'en Grèce, si vous voulez, il y a un élevage, il y a des bergers, c'est archaïque. À Rome, c'est la ferme. Et on produit massivement des bêtes pour les manger, puisqu'il y a une clientèle. Il y a des riches qui mangent, c'est bien connu, hein, le repas romain est quelque chose qui dure toute la journée et où on s'empiffre, comment le dire autrement. Et on a besoin de produire beaucoup de bêtes. On élève des loirs, par exemple, qui est un animal très prisé à Rome. Alors qu'en Grèce, l'élevage se limite aux troupeaux de moutons. Alors, on évoque aussi, bien sûr, dans Homère et ailleurs, il y a des bœufs, mais il n'y en a pas beaucoup. Si vous voulez, c'est la différence entre un élevage, artisanal et franchement industriel à Rome.
Avant qu'on ne se quitte, on a parlé de l'intelligence des animaux, de leur utilité, etc. Est-ce qu'il y a des animaux qu'on considère comme étant bêtes, pas intelligentes?
Ah, cette question est... Écoutez, je vous réponds... Comme ça, je ne vois pas. Les animaux sont...
Oui, c'est significatif.
Alors, bon, je pourrais citer un animal qui est considéré, je ne sais pas bien pourquoi, qui est considéré comme inadapté, c'est le héron.
Ah bon.
Le héron est un animal, la fable de La Fontaine le dit bien, le héron au long bec emmanché d'un long cou, c'est pas sérieux ça. Et le héron dans l'Antiquité est considéré comme un animal assez inadapté et dont on voit pas bien ce qu'il fait là. De là à dire qu'il est bête, Je ne sais pas, parce que...
Bon, ben on va conclure avec cette image, on va penser à des estampes japonaises où le héron a une belle place et où il est noble. Jean-Louis Poirier, merci d'avoir passé cette heure avec nous et je rappelle votre livre « Cave Canem, hommes et bêtes dans l'Antiquité ». C'est paru aux éditions Belles Lettres. Belle journée à vous. Au revoir.
Merci beaucoup et belle journée à vous aussi.
Merci. Merci également à nos lecteurs, Madeleine Caboche, Christian Tchoka, Silvio Dolzan. Merci à Alexandre Lemierre qui était au studio de Paris. Babylone du jour vous était proposé par Nicole Duparc et Nancy Psilantis. C'est Nicole Corpato, notre assistante de production. Et c'est Marc Frochot qui a fait un film de ses lectures.
Nana bien le di Santiago, pussy ma chulina moi. No iba bien le di ante, que pe pussy ma, cuba que ve no solar. Nana bien le di Santiago, pussy ma chulina moi, te pindo por si ma. No iba bien le di ante. Anna Maria, chi sei via, mantengo la tua cuglia, facendo un punto di pugna nel cuore. Anna Maria, che sei via, mantengo la fuga sull'arma, canto ringhi e cumpi il danzare. Thank you.
Anna Maria, c'était le délicieux capverdien Tcheka dans Babylone aujourd'hui. Je vous rappelle que cette émission est une quotidienne sur Espace 2 du lundi au jeudi à 9h avec une rediffusion le soir à 19h et bien sûr tous les dimanches sur la première entre 14 et 15. Écoutez la première, merci, il est l'heure.